Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous dans Décryptage ce soir. Toujours cette paix introuvable en Ukraine. Ce n'est pas encore le grand cessez-le-feu espéré par Donald Trump, mais après 48 heures de pourparlers séparés sous l'égide des États-Unis en Arabie Saoudite, eh bien, les belligérants ukrainiens et russes ont accepté un arrêt des hostilités en mer Noire. Après le moratoire annoncé la semaine passée sur les frappes visant les infrastructures énergétiques, il s'agit donc à nouveau d'une trêve limitée visant à permettre la reprise de la navigation commerciale en mer Noire et les exportations de produits agricoles ukrainiens. Un nouveau petit pas dans le bon sens, mais qui reste très fragile alors que le Kremlin conditionne l'entrée en vigueur de cette trêve à la levée de certaines sanctions occidentales. Une ligne rouge pour les Européens et pour le président Zelensky qui dénonce de son côté les manipulations de la Russie. À quoi joue donc Moscou, signant à gagner du temps? Et le médiateur américain dans ce conflit est-il trop clairement favorable au Kremlin? On fait le point ce soir avec nos invités. À mes côtés dans ce studio, Claude Blanche-Maison. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, ancien directeur également des départements d'Europe et d'Asie au Quai d'Orsay. Également en ligne avec nous, le géopoliticien Cyril Brett. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, chercheur associé, spécialiste de la Russie et de l'Europe orientale à l'Institut Jacques Delors. Merci à tous les deux de nous rejoindre sur RFI. Pour commencer, peut-être Claude Blanche-Maison, cette trêve, cette éventuelle trêve en mer Noire, est-ce qu'elle se fait réellement au bénéfice à la fois des Ukrainiens et des Russes?
D'abord, c'est un test, comme vous avez dit, une éventuelle trêve, puisque la négociation qui a eu lieu mardi à Riyad était une négociation fondamentalement entre les Russes et les Américains. Alors bien sûr, pas très loin, il y avait la délégation ukrainienne, représentée au niveau du ministre de la Défense, et les Américains s'étaient entretenus longuement avec ce ministre de la Défense avant la négociation, après la négociation, et également avaient fait des allers-retours pendant la négociation. Mais la négociation, elle a lieu entre Russes et Américains, sans qu'on sache exactement ce qui s'est dit dans ce tête-à-tête, en réalité. Les Russes avaient... Alors, ce qui était, d'une certaine manière, rassurant, c'est que des deux côtés, il s'agissait de professionnels de la négociation, mais les Russes avaient envoyé le message que les gens qui avaient été nommés étaient des durs. On sait que maintenant que c'est Poutine qui les avait lui-même choisis, Monsieur Karassine, ancien vice-ministre, les vice-ministres, il y en a environ 6 ou 7 au ministère des Affaires étrangères, sont des directeurs généraux, en quelque sorte, devenus président de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre haute du Parlement. Et l'autre était le chef du bureau du FSB, donc des services de renseignement, en charge de l'Ukraine au moment de l'attaque militaire du 24 février d'il y a un peu plus de 3 ans. Donc l'un était le rédacteur des accords de Minsk, accord savamment rédigé pour leur laisser la possibilité d'être inapplicables, et ils se sont avérés inapplicables. La Russie n'a pas voulu les appliquer, en fait. Et l'autre s'était trompé sur la facilité que l'armée russe pourrait avoir à opérer un changement de régime à Kiev. On croyait qu'il avait été puni pour ça, d'ailleurs il a probablement été puni, il a même peut-être été en prison pendant quelques temps, mais Poutine le ressort et l'envoie négocier sur le sujet de la mer Noire. C'est évidemment un mauvais signe quand même. Et effectivement, comme on ne sait pas très bien ce qui s'est dit autour de la table, bon, les Américains ont dit finalement tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un cessez-le-feu sur la mer Noire. Et puis, on apprend quelques heures plus tard que les Russes disent « Bah oui, bien sûr, nous sommes d'accord, mais enfin, évidemment, à une condition, c'est que tout ce qui concerne les exportations de blé et d'engrais russes à l'extérieur ne fasse plus l'objet de sanctions, que les banques russes qui font du business pour l'agriculture ne fassent plus l'objet de sanctions, qu'elles soient réintégrées dans le système SWIFT des échanges interbancaires, et que les assurances qui assurent le transport du blé ne fassent plus non plus l'objet de sanctions. Sachant que, évidemment, les Ukrainiens sont hostiles à cette idée de lever les sanctions
les
et
Européens
que demain aussi. Confirmera que les Européens le sont également.
Cyril Brett, est-ce qu'on peut soupçonner un nouveau cadeau fait aux Russes? On entend Washington qui se dit en tout cas prêt à aider Moscou à faciliter l'accès des produits agricoles et des engrais russes aux marchés mondiaux.
Oui, alors l'entrée en négociation des autorités américaines laissait présager évidemment d'importantes concessions faites à Moscou, voire une certaine convergence de vues. L'assurance donnée par Washington que vous venez de mentionner est quand même très vague. C'est sûrement pas un engagement de levée de sanctions. Et Washington, dans ce tour d'observation, dans ce deuxième tour de pourparlers préliminaires, essaye de tester lui aussi quelles sont les intentions réelles, les concessions que les autorités russes sont prêtes à faire. L'essentiel, c'est de voir que, pour revenir à votre question initiale, que cette séquence profite médiatiquement et à très court terme à la Maison-Blanche, à l'administration Trump 2, qui peut afficher en 2 semaines et moins de 2 mois après la prise de fonction du président Trump, qui peut afficher un accord de principe sur un éventuel cessez-le-feu sectoriel sur les infrastructures d'énergie et géographique en mer Noire.
Mais ça reste à minima quand même sur ces deux accords de trêve, que ce soit sur les frappes contre les infrastructures énergétiques, tant que sur cet accord en mer Noire.
Oui, ça reste très circonscrit, sectoriel, c'est toujours bienvenu naturellement, très conditionné, bon ça a bien été rappelé, les autorités russes assortissent l'application de ces accords de principe de tant de conditions qu'on peut soupçonner à juste titre des mesures dilatoires, et puis le niveau d'intensité des combats sur le front principal, ne baisse pas. Et ça n'est pas très étonnant de la part des autorités russes, qui combinent depuis toujours, et puis depuis bien avant même le début de cette longue crise ukrainienne, négociations et combats, pour arriver à la table des négociations avec un rapport de force militaire qui lui soit plus favorable. Mais sur le court terme, c'est évidemment une séquence positive médiatique pour l'administration Trump 2. Sur le long terme, je ne sais pas si on peut s'engager dans un pronostic sur la durabilité, la solidité de ces pourparlers préliminaires pour produire des résultats concrets.
Claude Blanchemaison, qu'est-ce que ça dit de la stratégie du Kremlin, ces dernières trêves signées mais pas encore appliquées? Est-ce qu'on peut y voir comment Poutine conditionne certaines concessions à des exigences beaucoup plus impérieuses qu'est ce qu'il réclame depuis toujours, la levée des sanctions par exemple?
Il y a en réalité une certaine incertitude sur les objectifs véritables de Poutine. Bon, la majorité des observateurs occidentaux pensent que Poutine veut continuer la guerre, même s'il accepte une trêve de 30 jours, partielle ou totale, dans les semaines ou les mois qui viennent. Et je pense que c'est assez raisonnable de faire cette hypothèse. Ce que l'on ne sait pas en réalité, c'est quel prix Poutine attache à la rencontre en personne avec le président Trump. Or, pour avoir cette rencontre en personne avec le président Trump, pour apparaître comme l'alter ego du président Trump, aux yeux des Russes, aux yeux du monde entier, aux yeux du Sud global, eh bien, pour obtenir ça, il faut qu'il accepte une forme de trêve à un moment ou à un autre. Et on voit bien que la multiplication des conditions, le fait qu'il y a au contraire une intensification des combats, cette nuit, un grand nombre de missiles ont touché des ports ukrainiens de la mer Noire. Donc on veut envoyer le signal que la Russie veut fermer la mer Noire aux Ukrainiens. Donc tout ceci indique que probablement le prix va être assez élevé. Alors est-ce que les Américains sont prêts aujourd'hui à tordre le bras des Ukrainiens et des Européens pour faire lever les sanctions sur tout ce qui touche au blé et aux engrais, y compris les aspects bancaires et assurances pour le transport? Ils vont essayer. Je suis pas sûr qu'ils y arrivent, parce que l'état d'esprit des Européens actuellement, est plutôt, en tout cas des Français et des Anglais, est plutôt de résister. Et c'est pas par hasard que Zelensky vient à Paris ce soir.
Et on y reviendra.
Et on va sans doute avoir... c'est très très important, parce que ça veut dire qu'il y aura un divorce, probablement, entre la position américaine, entre les souhaits américains, qui souhaitent en effet que ce cessez-le-feu ait lieu, et donc que par conséquent, cette partie des sanctions soit levée, et la détermination, en fait, de Zelensky et des Européens, à continuer de faire pression sur la Russie, par conséquent, à ne pas commencer à lever telle ou telle sanction. Il y a même des textes, des déclarations qui disent ce soir, tant que les troupes russes n'auront pas complètement quitté le territoire ukrainien. C'est pas demain la veille.
Comme l'évoque Claude Blanche-Maison, Cyril Brett, est-ce que véritablement Poutine a intérêt à un arrêt de la guerre ? On peut en douter, il joue encore et toujours la montre en ce moment, hein.
Oui, dans la conjoncture stratégique qui s'est instaurée avec l'élection de Donald Trump en novembre, le recul des troupes ukrainiennes aussi bien sur le territoire ukrainien que dans la poche de Koursk en territoire russe, le momentum ou le rythme ou la trajectoire est plutôt en faveur des armes russes, de sorte que on voit mal comment les autorités russes et le président russe lui-même y verraient un intérêt quelconque à un cessez-le-feu précipité et à des négociations qui soient facilitées pour donner à l'administration Trump un succès rapide. Il a, dans cette négociation, ou dans ces pourparlers préliminaires de cessez-le-feu provisoire à circonscrit, une position de force, puisqu'il est plutôt dans une position favorable sur le plan des armes, sur le plan du terrain, du rapport de force militaire, et que la donne diplomatique actuelle fait plutôt gonfler ses voiles vent arrière. Mais à pousser son avantage trop loin, à manifestement s'engager dans une stratégie dilatoire, il peut aussi s'exposer de la part de l'administration Trump 2, d'abord à une certaine impatience, ensuite à une campagne d'insatisfaction médiatiquement fortement relayée, et ensuite, éventuellement, si le blocage est trop fort et se fait au détriment des prétendues capacités de dealmaker de Donald Trump, il peut même s'exposer à un retour de bâton, à un backlash qui pourrait conduire l'administration Trump à durcir le ton et à s'engager dans un rapport avec la Russie tout à fait différent de celui plutôt bienveillant qui est adopté aujourd'hui.
Si je vous entends bien, Cyril Brett, les inquiétudes actuelles des Ukrainiens qui disent redouter une offensive russe à la faveur du printemps n'ont pas lieu d'être, hein.
Ah non, tout au contraire, je pense que l'offensive est en cours. Ça a été rappelé d'ailleurs par l'ambassadeur Blanche-Maison, les frappes sont très dures sur les ports, et un des buts de guerre tactique pourrait tout à fait être la prise d'Odessa à la faveur d'une démobilisation des Ukrainiens, de leur soutien américain et de leur soutien européen. Je ne sais pas si vous savez, le calendrier d'une offensive est toujours très difficile à établir, parce que la surprise est évidemment une partie intégrante de la stratégie militaire, et ensuite parce que le dégel peut rendre aussi des opérations de transport de troupes terrestres plus difficiles dans ces régions-là. Mais je pense au contraire que si le Kremlin arrive à ménager son médiateur américain, il peut essayer de pousser son avantage de façon significative sur le terrain terrestre.
Jusqu'où peut aller Vladimir Poutine, justement, dans ce pas de deux avec les États-Unis, Claude Blanche-Maison ? Est-ce qu'on peut dire qu'il a déjà pris, en quelque sorte, un peu l'ascendant sur Trump dans ses négociations, qui a quand même concédé une grande partie des desiderata russes pour la fin de ce conflit ?
Oui, on le voit bien dans les paroles que tiennent les personnes qui sont dans l'entourage immédiat de Trump, comme par exemple son envoyé spécial qui est compétent pour le Proche-Orient, mais qui maintenant est compétent aussi pour l'Ukraine, et qui a tenu des propos relativement insensés, en tout cas contraires à toute réalité historique, à la télévision, à Fox, Fox News, il y a peu de temps. On avait soit l'impression qu'il ignorait tout du problème ukrainien et de l'histoire qui est récente, soit qu'il se moquait du monde. Peut-être les deux d'ailleurs, c'est pas exclusif l'un de l'autre. Donc on sent bien que l'administration, les collaborateurs les plus proches de Donald Trump sont programmés pour faire des concessions à Poutine. Donc Poutine veut voir jusqu'où il peut aller. Et puis, en effet, il pourrait courir le risque d'agacer M. Trump à un moment donné et de risquer un retournement d'humeur de Trump, auquel cas, évidemment, il aurait raté toute sa manœuvre. Donc, pour lui, c'est quelque chose qui s'évalue au jour le jour, en réalité. Il est en train d'essayer de voir, de tester, et de voir jusqu'où il peut aller. Pour le moment, tout va bien, puisque l'envoyé spécial du président Trump explique que, effectivement, c'est la théorie russe qui est la bonne, qu'il n'y a pas du tout d'attaque russe contre l'Ukraine, d'agression russe, et puis que, historiquement, l'Ukraine, on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Donc, ça va continuer, je pense, et effectivement, pour le moment, Poutine n'a pas de raison de craindre un retournement d'humeur de Trump à court terme.
Cyril Brett, quid des Européens, exclu toujours de la table des négociations. Claude Blanche-Maison le précisait, le président Zelensky est à Paris ce soir avant un sommet de la coalition des volontaires demain à Paris. Quand l'Europe dit aujourd'hui pas de levée des sanctions sans un retrait inconditionnel des forces russes, est-ce qu'elle peut tenir sur cette ligne-là de fermeté?
Oui, elle le doit tant qu'elle est exclue de la table des négociations et tant que les États-Unis veulent traiter directement avec la Russie en traitant les Européens et les Ukrainiens en mineurs des relations internationales, la seule position possible est la position maximaliste. Et les Européens, les autorités européennes, en déclarant qu'elles restaient maîtresse du démantèlement ou non des sanctions qu'elles ont adoptées contre la Russie pour des motifs qui sont évidents, elles donnent un signe de maturité, un signe de force stratégique qui est, soyons clairs, le seul langage que comprennent les autorités américaines et les autorités russes à l'heure actuelle. Anticiper un compromis, donner des signes de bonne volonté alors même que les Européens sont bannis de la sécurité de leur propre continent pour le moment dans ces pourparlers qui ont lieu, rappelons-nous, sous l'égide du royaume saoudien, ce serait abdiquer par avance, alors même que les intérêts des Européens, les intérêts directs des Européens, stratégiques, économiques, politiques sont en jeu, ce qui n'est pas le cas pour les États-Unis.
Claude Blanche-Maison, il faudra la même détermination, la même fermeté des Européens pour imposer leur projet de coalition des volontaires prêts à apporter des garanties de sécurité en Ukraine.
En tout cas, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par mon collègue. C'est la seule arme dont disposent les Européens pour exister, puisqu'ils ne sont pas invités à la table de négociation. Eh bien, sauf qu'ils doivent faire comprendre qu'à un moment donné, s'il est question de lever toute ou partie des sanctions, on devra bien les faire venir à la table de négociation, parce que c'est eux qui détiennent la clé. De la même façon, s'il fallait un jour reconnaître, comme certains autour de Trump le disent, par exemple, que la Crimée appartient à la Russie, il faudra bien aussi que les Européens donnent leur accord, parce que nous ne signons jamais un accord qui reconnaîtra l'annexion de territoire ukrainien. Et les Américains le savent très bien. Par conséquent, virtuellement, nous sommes à la table de négociation. Et c'est à travers les sanctions et à travers la situation juridique des territoires annexés par la Russie que nous y restons. Donc, probablement que l'entente avec M. Zelensky sera très forte ce soir, avec l'idée en effet que les Européens et les volontaires, la coalition des volontaires, renouvelleront leur souhait, leur disponibilité en tout cas, à pouvoir fournir des forces pour assurer la sécurité de l'Ukraine après le cessez-le-feu.
Merci Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie. Je signale votre livre apparaît dans 15 jours, Fragment d'un parcours aventureux, aux éditions Temporis. Merci également beaucoup Cyril Brett, maître de conférence à Sciences Po Paris, chercheur associé, spécialiste de la Russie et de l'Europe orientale à l'Institut Jacques Delors. Merci à vous deux d'être passés sur RFI.
Merci à vous.